Quand j'étais ado, l'un de nos hobbies favoris avec mes deux grands frères, un hobby qui va peut-être vous sembler un peu étrange pour certains d'entre vous, peut-être, c'était de regarder les films d'horreur qui passaient à l'époque sur Canal+, ce samedi soir, assez tard, oulala. Mes deux grands frères me réveillaient après être allés au groupe de jeunes. Je n'avais pas encore l'âge d'aller au groupe de jeunes. C'est le privilège des plus jeunes. Souvent, ils font des choses que leurs aînés n'auraient jamais fait au même âge. Mais bon, j'étais le petit dernier et j'avais cette chance-là, en tout cas ce privilège-là. Et donc, ils me réveillaient après le groupe de jeunes. Et c'était parti pour environ 1h30 de frissons. Après quoi, il fallait essayer de se rendormir sans faire trop de cauchemars. C'était un peu un hobby, tous les samedis soirs, pendant quelques années de ma jeunesse. Et le texte sur lequel nous allons nous pencher ce matin a justement de quoi faire peur. D'une certaine manière, on dirait une vraie scène toute droite sortie d'un film d'horreur. Et pourtant, il ne s'agit pas de Frankenstein, ni de La Nuit des Morts Vivants, ou je ne sais quoi encore comme film qu'on pourrait imaginer, mais bien d'une vision, une vision que Dieu a donnée à Ézéchiel, au prophète Ézéchiel, et qu'on retrouve dans Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 14. Et pour lire ce passage, on va faire, une fois n'est pas coutume, on va un peu changer nos habitudes, et on va voir le texte sous forme d'une vidéo, parce que je pense que la vidéo va nous permettre d'appréhender d'une façon différente ce texte, plus imagé. Alors, les paroles sont en anglais, mais il y a les sous-titres en français, donc ça permettra à chacun de bien saisir le texte en lui-même. Et je vous invite juste à simplement à regarder cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y a 7 minutes, on ne va pas faire 7 minutes de vidéo, on la coupera un peu avant. Je vois que... Allez, c'est parti.
The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, "Son of man, can these bones live?" I said, "O sovereign Lord, you alone know." Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, 'Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you and you will come to life.' Then you will know that I am the Lord." So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath and say to it, 'Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live.'" So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army.
On peut remettre les lumières, hein, sinon ouais, il va y avoir des cauchemars. Je ne sais pas quel effet vous a fait cette vidéo, ce texte-là, peut-être que plusieurs d'entre nous le connaissent déjà bien, mais c'est un texte qui est assez poignant, assez intriguant, assez palpitant. Et de la mort à la vie, c'est le sujet de ce texte. Et beaucoup de prières, et Ricardo nous a emmenés dans un temps de louange, en lien avec la résurrection, en temps spirituel que nous pouvons vivre. Et c'est vraiment en continuité un peu de ce temps de louange qu'on a mené que je veux poursuivre, de la mort à la vie. Ézéchiel 37, verset 1 à 14. Et pour bien comprendre cette vision d'Ézéchiel, pardon, Je veux juste d'abord revenir sur quelques éléments de contexte, quelques détails, pour mieux aborder le texte directement ensuite. Vous le savez, suite aux nombreuses infidélités d'Israël, Dieu a sévèrement jugé son peuple. Et la sévérité de ce jugement est allée jusqu'à l'exil du peuple juif. En 597, d'abord, l'élite de la nation, environ 10 000 personnes, est déportée. Déportée donc depuis Jérusalem jusqu'à Babylone, que vous voyez un peu plus loin. Parmi ces 10 000 personnes figure justement Ézéchiel. Ézéchiel est déporté, car il faisait partie de l'élite sacerdotale. En tant que descendant d'Éléazar, le fils aîné survivant de Moïse, d'Aaron, au contraire du prophète Jérémie, par exemple, qui lui était de la lignée cadette, la lignée d'Itamar, qui lui est resté à Jérusalem à ce moment-là. Donc, Éléazar va faire l'exil jusqu'à Babylone et va s'installer à Tel Abib, juste la ville en dessous de Babylone. 10 ans plus tard, en 587, le royaume de Juda est là complètement détruit, Jérusalem est ravagée et la très très grande majorité du peuple juif est envoyée en exil à Babylone. Il ne reste pratiquement plus personne au niveau des juifs à Jérusalem, hormis Jérémie et quelques autres hommes à ce moment-là. Et cette vision que nous avons écoutée, que nous avons lue, reçue par Ézéchiel, date d'environ 30 ans après l'exil d'Ézéchiel. Donc ça fait 30 ans qu'Ézéchiel vit à peu près à Tel Abib. Ça fait 20 ans que Jérusalem a été rasée, pour ainsi dire. Et que le peuple juif, dans sa très 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 grande majorité, est en exil à Babylone. Et à ce moment-là, il est dit que la main de l'Éternel se posa sur Ézéchiel. Et c'est la 5e fois dans le livre d'Ézéchiel que la main de l'Éternel se pose sur son prophète. Et cette fois-ci, c'est pour le transporter dans une vallée remplie d'ossements. Une vallée où la mort règne. Il n'y a plus âme qui vive. Et pour encore mieux prendre conscience de l'ampleur des dégâts, de l'ampleur de cette mort, Dieu fait promener Ézéchiel dans cette vallée. Il dit au verset 2, « Il me fit promener sur eux en tous sens. » Littéralement, les mots utilisés ici dans l'original au verset 2 suggèrent que le prophète a dû escalader les ossements entassés. Il a dû se frayer un chemin parmi ces ossements. Et le bilan du parcours d'Ézéchiel est désastreux. Il n'y a pas âme qui vive, il n'y a rien, personne, rien de vivant. En 2015, l'explorateur belge Louis-Philippe Locke, dont vous voyez une photo ici, a été le premier homme à traverser la vallée de la mort, située dans l'ouest des États-Unis, en Californie, en autonomie complète, il est parti seul. Il a marché 16 à 18 heures par jour en moyenne avec un sac qui pesait 43 kilos au départ, avec toutes les nourritures qu'il lui fallait, pendant 8 jours pour traverser les 250 kilomètres de la vallée de la mort. Un sacré défi. Et c'est dans cette vallée, pour la petite histoire, que la température la plus élevée jamais enregistrée sur notre Terre a été atteinte. C'était le 10 juillet 1913, avec un coquet 56,7 degrés Celsius. Donc on en est loin encore, malgré les semaines qu'on a passées dernièrement. C'est une vallée aride, déserte, où rien ne semble pouvoir survivre. Mais la vision qu'Ézéchiel a à ce moment-là est bien, bien pire que la vallée de la mort qu'on trouve en Californie. Ça défie l'imagination. Partout, c'est le triomphe absolu de la mort sur la vie. Ézéchiel est confronté à un spectacle lugubre, un spectacle de désolation la plus totale. Il n'y a rien, aucun espoir. La plaine où Dieu l'a amené ressemble à un champ de bataille qui avait été un jour jonché de cadavres. Mais avec le temps, même les squelettes en tant que tels avaient disparu. Les os étaient dispersés partout. Il ne restait plus rien, que des os desséchés dispersés un peu partout. La nature a achevé son œuvre de destruction. Tout vestige de vie a disparu. Et Ézéchiel a dû avoir des frissons dans le dos, j'imagine, devant cette vision d'horreur que l'Éternel lui donnait. Un sentiment de désastre, de désespoir, de désolation a dû l'envahir. Et ce spectacle lugubre représente la nation d'Ézéchiel, représente la nation d'Israël, comme Dieu l'explique au verset 11. Fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. C'est une image de la situation de désespoir dans laquelle se trouvait le peuple de Dieu à ce moment-là. Parce qu'après la destruction de Jérusalem, après l'exil, le peuple était en proie au désespoir. Un peuple en exil, sans terre, est un peuple mort d'une certaine manière. Et les Juifs se voyaient ainsi à ce moment-là. Et après cette vision d'horreur que Dieu donne à Ézéchiel, il lui pose cette question. Crois-tu que ces ossements revivront ? Penses-tu, crois-tu que ces ossements revivront ? C'est sans aucun doute la question que les exilés eux-mêmes se posaient. Avaient-ils encore un avenir ? Avaient-ils encore un espoir ? Et à cette question, Ézéchiel répond simplement, toi seul, tu le sais. Toi, tu le sais. Et à travers cette réponse, Ézéchiel confesse deux aspects très importants pour la suite. D'abord, il confesse le fait que toute possibilité humaine est à écarter. Un ossement ne peut pas revivre. C'est impossible du point de vue humain. Non, c'est impossible. Mais en même temps, il confesse une deuxième chose qui est importante, qui est essentielle même. Rien, et même pas le fait de faire revivre des ossements, n'est impossible à Dieu. L'homme est limité, Dieu est illimité. Ézéchiel ne se repose pas sur sa foi humaine à ce moment-là, mais sur la connaissance de Dieu. Peu importe ce que Ézéchiel peut croire ou ne pas croire, l'important, c'est que Dieu sait, lui, ce qui peut être fait. Et Dieu sait, et Ézéchiel le sait aussi, que seule l'intervention de Dieu peut changer quelque chose à cette vision d'horreur. Seule l'intervention de Dieu peut changer quelque chose à cette situation qui semble condamnée d'avance quand on voit une vallée remplie d'ossements comme celle-ci. Le cœur des exilés était desséché, sans espoir. Et dans une certaine mesure, ce constat peut parfois aussi être le nôtre. Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi d'avoir parfois le sentiment d'être en exil, loin de la terre promise, loin de la communion avec Dieu ? D'avoir un cœur qui ressemble d'une certaine manière à un champ d'ossements desséché, un cœur desséché devant Dieu. Je crois qu'il peut aussi nous arriver d'avoir un sentiment de vide spirituel, un sentiment de dessèchement spirituel, en perdant tout espoir, toute motivation dans nos vies. Nous vivons une période de doute, on l'a évoqué dans une prière, de remise en question, où nous n'avons même plus envie d'ouvrir notre Bible, de prier, d'aller au culte, de témoigner de notre foi. Est-ce qu'il peut nous arriver de telles situations ? Bien sûr que oui. Et ce cœur desséché, est-ce que lui, il peut reprendre vie ? Tout seul ? Non, c'est impossible. Il ne peut pas reprendre vie tout seul, ce cœur desséché. Ce n'est pas plus possible dans le champ d'ossement de la vision d'Ézéchiel que dans notre cœur lorsqu'il est desséché. Ne croyons pas qu'avec le temps, ça reviendra. Ou avec nos efforts, ça reviendra. Non, le temps n'y fera rien, à part peut-être accentuer ce dessèchement. Nous avons d'abord besoin d'avoir un regard lucide, clair sur l'état de notre cœur. Ézéchiel, Dieu a demandé à Ézéchiel de faire le tour de la vallée, de faire le constat lucide du sentiment de désolation qui habitait cette vallée. Et nous avons de la même manière besoin de regarder au cœur quand il est desséché et d'être lucide par rapport au dessèchement spirituel qui parfois peut nous habiter, de regarder la réalité en face. Parce que lorsque notre cœur est desséché, il ne faut pas chercher à nous mentir à nous-mêmes, mais il faut être honnête pour faire face à la situation dans laquelle nous sommes, que nous traversons. Et c'est la première étape que Dieu demande à Ézéchiel, de faire le tour de la situation, de voir qu'il n'y a que la désolation. Et Dieu nous demande aussi d'avoir un regard sur notre propre cœur quand nous sommes dans une situation de déchéance spirituelle dans notre cœur, de ne pas nous mentir à nous-mêmes, mais de regarder en face ce dessèchement qui peut nous habiter. Parce que tant que nous n'avons pas un regard lucide et clair face à notre dessèchement spirituel, nous ne serons pas capables de réclamer l'aide du Seigneur. Et c'est ce que Dieu propose à Ézéchiel quand il lui dit « Crois-tu que ces ossements peuvent revivre ?» Dieu sait très bien qu'Ézéchiel n'a pas ce pouvoir en lui. C'est une manière d'inviter Ézéchiel à entrer dans cette vision pour sauver cette situation. Et Dieu veut que nous ayons un regard lucide quand il le convient pour que nous puissions réclamer son aide. Le début de cette vision nous amène à nous poser une question importante sur l'état de nos cœurs et de notre vie spirituelle. Est-ce que nous avons un regard honnête sur nous-mêmes? Et savons-nous réclamer l'aide de Dieu dans ces cas-là? Tant que nous aurons un regard pour nous mentir à nous-mêmes, nous ne chercherons pas l'aide de Dieu. Et ce sera simplement une tombe qu'on creuse encore plus profondément, malheureusement. Mais suite à la réponse d'Ézéchiel, Dieu l'invite à prophétiser. Et il va accomplir un miracle incroyable ici, dont le but est clairement de démontrer la puissance de Dieu. Verset 6, il dit, Dieu dit, « Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Pourquoi ? Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Le but de ce miracle est d'amener Israël, et nous-mêmes, on le verra par la suite, à reconnaître qui est Dieu. On remarque que cela se réalise en deux temps bien distincts, cette résurrection en tant que telle. D'abord, le corps est reconstitué, du verset 7 au verset 8. Puis il est réanimé, verset 9 au verset 10. Et cela nous rappelle la création d'Adam, en Genèse 2, verset 7. Il est dit, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Lors de la création, Dieu a façonné l'homme à partir de la poussière du sol et lui a insufflé le souffle de vie. Et de la même manière ici, les hommes sont refaçonnés à partir d'ossements desséchés et ils reçoivent un souffle vital par la suite. Pendant la prophétie d'Ézéchiel, un bruit particulier se fait entendre qui a pour origine le mouvement de tous ces os inanimés qui s'emboîtent pour former un squelette. Ces squelettes, une fois reconstitués, se couvrent de nerfs, de chair puis de peau. Et ce passage brosse un tableau incroyable de l'action de Dieu, avec beaucoup de réalisme. On peut dire un art consommé aussi de la description. Et les corps sont reconstitués, mais il ne s'agit encore que de cadavres. Il y a l'apparence de la vie, mais il n'y a pas la vie. Il y a de vrais gens, et non plus des ossements, mais il n'y a pas la vie. Une étape supplémentaire est nécessaire. Et cette étape, c'est la réanimation du corps. Ézéchiel en appelle ensuite à l'esprit qui vient des quatre vents, ce qui dessine les quatre points cardinaux et exprime l'universalité de l'Esprit de Dieu, qui est comparé ici à un vent, bien sûr, comme souvent dans l'Écriture. Comme lors de la création, où Dieu a fait pénétrer un souffle de vie dans le corps d'Adam, ici aussi, son Esprit pénètre tous ses corps pour leur rendre la vie et qu'ils puissent enfin se dresser sur leurs pieds. La vie est présente maintenant. L'œuvre de Dieu accomplie dans ce passage est aussi un merveilleux message d'espoir, je crois, pour chacun d'entre nous si nous vivons une période de dessèchement spirituel. Si notre cœur est desséché, alors ni le temps, ni nos efforts, ni aucune technique spirituelle, entre guillemets, ne seront utiles. Mais par contre, Dieu nous promet que l'action de son esprit peut tout changer. L'action de son Saint-Esprit en nous peut tout changer. Nous pouvons être sûrs de l'efficacité de l'action de l'Esprit de Dieu dans une telle situation. Pourquoi ? Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons déjà été au bénéfice de cette action de l'Esprit Saint en nous, lors de notre conversion. Nous ne devons jamais oublier que nous étions morts, comme ces ossements, desséchés, à cause de notre péché. Mais Dieu nous a donné la vie, comme l'affirme Éphésiens 2, versets 4 à 6, que Ricardo a lu en début de culte. Je reprends juste quelques versets. « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Lorsque Dieu intervient, même les ossements bougent. Lorsque Dieu intervient, même le désespoir le plus total se met à remuer. Les choses bougent. L'abbé Pierre raconte qu'à l'origine d'Emmaüs, il y avait un homme qu'il essayait en vain d'aider, qui était désespéré, avait tenté de se suicider à de multiples reprises. Et saisi d'une soudaine inspiration, l'abbé Pierre lui a dit « Tu es horriblement malheureux, et moi je n'ai rien à te donner. Je n'ai que des dettes. Mais toi, puisque tu veux mourir, tu n'as rien qui t'embarrasse. Ne veux-tu pas me donner ton aide pour sauver ces autres qui attendent ? Alors la figure de Georges, qui deviendra le premier compagnon d'Emmaüs, se transforma. 15 ans plus tard, avant de mourir, Georges a dit à l'abbé Pierre, « Vous m'auriez donné n'importe quoi, du travail, du pain, une maison, de l'argent, j'aurais recommencé à me tuer. Parce que ce qui me manquait, ce n'est pas de quoi vivre, mais c'était des raisons de vivre. Des raisons de vivre. L'action de Dieu dans nos vies nous donne une nouvelle espérance. Elle nous donne une véritable raison de vivre, un vrai but dans notre vie. Parce que nous ne sommes que voyageurs ici-bas. L'action de Dieu dans nos vies nous donne un réel but dans nos vies. Une raison valable de vivre. Et cela change tout. Cela nous rend la vie. Ce passage aussi nous invite à considérer le rôle essentiel d'Ézéchiel dans ce passage. Il n'a pas été un simple spectateur de l'œuvre de Dieu. Au contraire, Dieu a utilisé son prophète. Est-ce que Dieu avait besoin de son prophète ? Dieu aurait très bien pu faire tout cela sans Ézéchiel. Mais Dieu demande à Ézéchiel de parler, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser. Et c'est sous l'action de la prophétie d'Ézéchiel que Dieu agit. Et cela n'a pas changé aujourd'hui, je crois bien. Dieu veut encore se servir de nous. Il ne veut pas que nous soyons de simples spectateurs de l'action, de son action. Il veut que nous soyons acteurs de l'action de Dieu dans ce monde. Il souhaite que nous suivions l'exemple d'Ézéchiel, dont l'intervention peut être divisée en 2 étapes essentielles. D'abord, l'observation. Ézéchiel a observé cette vallée. Il a largement, longuement observé tous ses ossements. Il a écouté aussi, on le sait dans le livre d'Ézéchiel, le cœur desséché de ses contemporains à ce moment-là. Et aujourd'hui, nous devons nous aussi être sensibles de la même manière à la misère de notre monde, à tous ceux qui vivent sans espérance dans ce monde. Ils sont tellement nombreux. L'observation et ensuite l'action. Ézéchiel prophétise sur ses os. De notre côté, nous devons aussi être capables de parler à nos contemporains en partageant notre espérance avec celui qui désespère, en ayant une parole de consolation pour celui qui est affligé. Maurice Zundel, un théologien du 19e siècle, a écrit « Si l'on peut dire que l'immense majorité des hommes sont comme des morts vivants, s'ils sont morts, spirituellement parlant bien sûr, avant même de mourir, c'est cela alors là la plus grande tragédie. C'est de n'avoir pas vaincu la mort durant la vie. L'immense majorité des hommes sont des cadavres d'humanité. Et le vrai problème n'est pas de savoir si nous serons vivants après la mort, mais nous serons vivants avant la mort, avant la mort. Nous serons vivants spirituellement avant notre mort physique. À quel point sommes-nous sensibles à la misère de notre monde, où tant de personnes, sont comme des morts vivants, sans aucune espérance. À quel point sommes-nous prêts à partager l'espérance qui est la nôtre dans ce monde désespéré ? C'est la question que nous pose le rôle essentiel d'Ézéchiel dans ce passage. Dans les derniers versets de ce passage, Dieu prend le temps d'expliquer la vision à laquelle Ézéchiel vient d'assister. Et c'est comme je l'ai déjà dit, il explique clairement, Dieu ici, que ses ossements symbolisent Israël, qui est dans un état catastrophique à cette époque, tant sur le plan national, il n'y a plus de nation d'Israël, que sur le plan psychologique parmi tous ces hommes qui sont désespérés, ces hommes et ces femmes qui sont désespérés face à cette situation. Israël vit un profond pessimisme, et tout espoir de revenir dans le pays promis commence à disparaître parmi eux. 20 ans qu'ils sont éloignés du pays, 20 ans. Les Israélites, parce qu'ils sont en exil, parce qu'ils n'ont plus d'espérance, se voient comme des ossements desséchés, sans aucun espoir. Et c'est justement ce que les exilés partageaient à Ézéchiel. En Ézéchiel 33, verset 10, il disait « Comment pourrions-nous vivre, puisque nos rébellions et nos fautes pèsent sur nous et que nous dépérissons à cause d'elles ? Comment pouvait-il vivre dans une telle situation de désespoir ? Tant que Jérusalem était encore debout, et que le royaume de Juda existait encore. Les exilés avaient écouté les faux prophètes qui leur donnaient des faux messages d'espoir. Mais maintenant, depuis que Jérusalem a été ravagée, détruite, que les exilés avaient sombré dans le désespoir le plus total, car il leur paraissait maintenant absolument impossible d'avoir un avenir sur le plan national. Le bilan est désastreux. Il n'y a plus aucun espoir. Leur vie est fichue. Ils sont comme ces os desséchés. Et face à un tel désespoir, Dieu proclame une extraordinaire bonne nouvelle au verset 12. Il dit d'abord, « Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. » Il promet de les faire remonter de leurs tombeaux, qui désigne l'empire babylonien où les Juifs sont captifs. Ils vont être délivrés de leur captivité. Plus loin, « Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Il leur promet de permettre leur retour sur les terres d'Israël. Dieu va restaurer Israël en tant que nation. Et cela, ces deux choses correspondent à la reconstitution du squelette qu'on a vu, qui se couvre de chair dans la vision d'Ézéchiel. Dieu va remplacer le désespoir des exilés par une nouvelle espérance, en les libérant de la captivité, en les ramenant dans le pays promis. Mais Dieu va encore plus loin, comme la vision reçue par Ézéchiel le laissait entendre. Il ne veut pas se contenter de libérer Israël du joug babylonien pour restaurer la nation d'Israël. Il veut aussi, au verset 14, mettre son esprit en eux. Comme il avait déjà affirmé en Ézéchiel 36, versets 25 à 27, où il dit, parlant d'Israël, « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai sur vous mon propre esprit et je vous ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » En plus de la restauration géographique, Dieu promet un renouveau spirituel de son peuple. Et cela correspond à la réanimation du corps lorsque le souffle de vie de Dieu donne à ce corps de pouvoir se lever, de pouvoir revivre. Et cette double promesse engage Dieu. Sa réputation est en jeu. C'est pour cela qu'il va réaliser cette promesse, parce qu'elle prouvera à Israël qu'il est bien le seul Dieu. Ce qu'il dit au verset 13. « Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos temples, ô mon peuple. » Le but de ce miracle est qu'Israël se rende compte qui est Dieu. Et en effet, Dieu a été fidèle à sa promesse. Ces deux engagements étaient réalisés. La reconstitution du corps correspondant au retour de l'exil pour retourner dans le pays promis a eu lieu en 538 avant Jésus-Christ, quand Babylone est tombée et que les Perses sont arrivés au pouvoir avec Cyrus, qui a permis aux Israélites de retourner dans la terre d'Israël. La réanimation du corps correspondant au don de l'Esprit a aussi eu lieu lors de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les disciples de Christ pour faire son habitation. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice encore de cette réanimation spirituelle, parce qu'aujourd'hui encore, comme pour les premiers apôtres, le Saint-Esprit vient faire sa demeure parmi nous, dans nos vies, si nous acceptons Christ, si nous faisons de Christ notre Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit vient en nous et nous réanime, et nous donne de passer du statut de mort-vivant devant Dieu au statut de vivant, de fils et de fille de notre grand roi. Ce passage, en tout cas, nous dévoile encore deux caractéristiques majeures de Dieu. Dieu fait ce qu'il dit. Il est celui qui ne nous déçoit pas, celui qui est toujours digne de confiance, celui qui fait ce qu'il dit. Dieu est fidèle à ses promesses, comme il a été à ce moment-là. Et toutes ses promesses se réaliseront, parce que Dieu est fidèle. Paul l'exprime ainsi en 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Malgré toutes nos infidélités, Dieu demeure fidèle. Malgré tout notre péché, Dieu demeure fidèle à ses promesses. Et ses promesses se réaliseront. Elles se sont réalisées pour Ézéchiel. Elles se réaliseront pour nous aussi. Deuxième chose aussi en lien avec cette première point, Dieu dit et fait les choses. Il ne se contente pas de parler, mais parle et agit en conséquence. Comme elle dit au verset 14, « J'ai parlé et agi ». Jésus lui-même a dit en Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Mais Jésus ne s'est pas contenté de dire cette belle phrase. Il l'a fait. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il a donné sa vie à la croix pour ses amis, pour ceux qui veulent l'aimer. C'est parce qu'il a agi en accord avec ses paroles que nous pouvons lui faire confiance encore aujourd'hui. C'est parce que Dieu est fidèle à ses promesses, parce que Dieu agit en accord avec ce qu'il affirme, qu'aujourd'hui encore, 20 siècles plus tard, nous pouvons toujours avoir la même confiance et la même foi en Dieu, qui peut intervenir dans nos vies, qui peut rendre notre vie à notre cœur qui est desséché peut-être parfois. En conclusion, ce texte nous parle du passage de la mort à la vie. Le peuple d'Israël était comme mort, mais Dieu l'a ramené à la vie en lui donnant un nouvel espoir. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans ce cas-là aussi. Tu as le cœur desséché. Tu ne vois pas le bout. Tu es sans espoir. Et ce texte est un encouragement pour toi et pour chacun d'entre nous, je pense. Dieu promet ici qu'il y a un espoir. Et cet espoir, c'est lui. Cet espoir, c'est lui. L'espoir de faire revivre ce cœur desséché ne repose pas sur nous, sur nos forces, sur nos capacités, sur une quelconque action personnelle, mais sur Dieu, sur le Saint-Esprit qui vient réanimer notre cœur. Et nous avons besoin, chacun, et moi le premier, dans nos vies spirituelles, de réclamer l'aide de Dieu, de réclamer son Saint-Esprit pour qu'il vienne faire rebattre ce cœur qui parfois se dessèche, ce cœur qui parfois s'éloigne de lui. Parce que seul le Saint-Esprit peut faire cette action miraculeuse dans nos vies. Dieu veut nous renouveler pour nous donner un nouvel élan, pour nous donner un nouvel espoir, pour nous donner une nouvelle raison de vivre et de persévérer dans ce monde. Que nous puissions avoir un temps peut-être de réflexion sous nos propres cœurs, un temps où nous puissions aussi réclamer l'action de Dieu dans notre vie à travers son Saint-Esprit. Que nous puissions avoir ce temps. Je laisserai la parole à Ricardo. Amen.